Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En cette rentrée littéraire de janvier, je vous propose cette semaine de frissonner de bonheur, mais aussi au sens littéral du terme, avec un roman intitulé « Le poids de la neige » qui nous vient du Québec. Ce deuxième livre de Christian Gay-Poliquin, récemment publié aux éditions de l'Observatoire, est une fiction hypnotisante qui nous plonge dans un hiver glacial où tentent de survivre deux hommes. Énorme succès outre-Atlantique, couronné à 5 reprises, entre autres par le prix France-Québec, mais aussi le prix du gouverneur général au Canada, ce récit tendu comme un arc est porté par une écriture incisive et ludique. De passage à Paris, l'auteur est notre invité maintenant. Bonjour Christian Gay-Poliquin.
Bonjour.
Votre deuxième roman a été beaucoup remarqué outre-Atlantique, car il est vrai que c'est une fiction particulièrement prenante. En quelques mots, dans un village enseveli sous la neige, un homme, grièvement blessé par un accident de voiture, est hébergé par un inconnu, Mathias, personnage plus âgé mais tout aussi solitaire, et pendant des semaines, peut-être des mois, dans un huis clos très oppressant, c'est de là, nous, une relation complexe de méfiance, de solidarité, tendue vers un même objectif, quitter cette maison prisonnière de la nature. Quelle est l'origine de cette histoire?
L'origine de cette histoire est plurielle. Cette histoire se passe dans un contexte sans électricité. Donc, on est dans un futur proche, certes, mais donc dans un présent simplement décalé où du jour au lendemain, l'électricité a failli et n'est jamais revenue. Il n'y a pas des milliers de morts, il n'y a pas de tsunamis qui ont dévasté les villes, il n'y a pas de zombies qui sont sortis des cracks du plancher pour manger tout le monde. Il y a simplement plus d'électricité, ce qui reconfigure un peu tous les modes de socialisation, les réseaux de solidarité et donc la vie communautaire en ville et dans les villages comme dans le village où se retrouvent coincés mes deux protagonistes.
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi un parfum de fin du monde, une situation post-apocalyptique peut-être?
Ben, vous le dites très bien, c'est-à-dire un parfum de fin du monde, parce que, encore une fois, on n'est pas après la fin du monde, puisque on n'a qu'enlevé qu'un élément au réel, qui est fondamental, qui n'est que l'électricité. Et donc, c'est avec la perte de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui tombe en premier? Ben, c'est l'ensemble des institutions qui vont normer nos vies, dicter nos comportements, qui vont faire en sorte que la vie en société est telle qu'on la vit de tous les jours. Alors, si tout cela tombe du jour au lendemain, il faut revoir notre façon d'être en collectivité et d'entrer en contact avec l'autre. Donc, c'est sur cet enjeu-là que se joue le roman. Et si je me permets, la boutade, la panne d'électricité, en ce sens, me permettait de mettre en lumière la problématique relation de mes deux personnages.
Alors, si vous permettez, Christian Gay-Poliquin, une question très française.
Allez-y.
Parce que c'est vrai que cette situation d'enneigement extrême ne nous est pas forcément familière ici en France. Il nous arrive pas de passer comme ça des mois entièrement coupés du monde. Ça peut arriver quelques jours sans électricité. Mais en revanche, je me disais, est-ce qu'au Québec, c'est une situation plus habituelle? Ce sont des scènes plus courantes? Et est-ce que vous, par exemple, il vous est arrivé d'être piégé comme ça, cerné par la neige?
Ben, il y a plusieurs réponses à votre question. J'irais premièrement avec mon chapeau d'auteur, dans la mesure où la neige ou l'hiver dans mon roman est d'abord un prétexte narratif, hein, c'est-à-dire ou un procédé narratif, disons-le comme ça, dans la mesure où j'avais besoin de faire une prise d'otage. Je voulais contraindre mes deux personnages à se faire face un l'autre et donc à s'apprivoiser de façon laborieuse. Donc l'hiver, en ce sens, et dans un contexte, encore une fois, où les routes ne sont pas déblayées, où la neige s'accumule sans qu'on ne puisse rien y faire, donc cela me permettait d'asseoir ma fiction. Après ça, si je prends le chapeau de la personne que je suis dans ma vie de tous les jours au Québec, bien sûr, au Québec, on a l'hiver et on fait avec, comme on dit. C'est-à-dire que on expérimente la neige, on expérimente les tempêtes et on traverse comme ça les saisons. Et pour imaginer un hiver aussi prenant que celui de mon roman, il suffit que de vivre quelques bonnes tempêtes pour voir à quel point la neige qui s'accumule peut devenir contraignante.
Donc, vous êtes très aguerri à ce genre de situation, d'où votre dextérité d'ailleurs à raconter si précisément chaque jour, chaque étape de cette neige, de cette tempête et tous les gestes nécessaires pour survivre. C'est parce que vous connaissez ça.
Certes, à mon sens, l'inspiration vient de ce vécu-là. C'est Hemingway qui disait « on parle de ce qu'on connaît ». Et en ce sens, pour investir quelque chose, un imaginaire grâce à la fiction, de connaître certains, d'y avoir goûté un peu, de l'avoir subi un peu, d'avoir froid, d'avoir eu les pieds mouillés, d'avoir pelleté pendant des heures, de s'être perdu dans un blizzard, à douter un peu de la direction. Et bien sûr, après ça, c'est de la matière à fiction. On n'est pas fou.
Voici donc ce narrateur dont on ne connaîtra jamais le nom, et face à lui, Mathias, dont on apprend, lui, qu'il a une femme hospitalisée dans la vallée et qui n'a qu'une hâte, c'est de la rejoindre. Et alentour, dans le village, une douzaine de maisons, encore quelques personnes, un pharmacien, une vétérinaire, un fermier, quelques autres, mais au fur et à mesure, les gens partent, tenter leur chance, et au final, il n'y aura plus qu'une poignée qui restera. Et je me demandais ce que vous permettez exactement cette situation, dans la mesure où vous la structurez aussi comme le mythe grec du labyrinthe de Dédale, où il y a un monstre, le Minotaure, qui est enfermé, et d'où tente de s'échapper Icare, avec, on se souvient, des ailes collé sur son corps, mais par de la cire, et au fur et à mesure qu'il va s'élever dans le ciel et s'approcher du soleil, la cire fond. Pourquoi cette référence, Christian Guay-Poliquin?
La référence mythologique dans mon roman agit à titre de, je pourrais dire, de clin d'œil fédérateur, dans la mesure où on réécrit toujours les mythes. Ça fait 2500 ans qu'on réécrit ces histoires. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose de très puissant dans ces histoires-là. Dans le cas de Dédale et d'Icare, aussi, c'est la fin dramatique où la jeunesse va se brûler les ailes trop près du soleil. Et comme mon histoire est une histoire d'aidant naturel renversé, dans la mesure où le jeune protagoniste, dans la fleur de l'âge, a les deux jambes brisées et qu'il est pris en charge par que j'imagine un octogénaire, du moins un vieil homme, qui est Mathias, qui donc, c'est lui qui aide le jeune homme, et donc c'est lui qui est l'aidant naturel, contrairement à la situation habituelle. Le mythe, je me suis permis de le réécrire pour inverser sa proposition finale, et donc poser une question. Pourquoi ce ne serait pas Dédale? Pourquoi ce ne serait pas le vieux, celui qui sait, celui qui a vécu, qui serait assoiffé d'absolu, qui serait curieux de l'altitude, qui aurait le goût de se brûler les ailes, qui aurait goût de tenter la mort, alors que le jeune suivrait tout simplement scrupuleusement les conseils que lui a prodigué son père. Donc, c'est en inversant subtilement cette proposition-là que je cherchais à nourrir ma fiction et donc de problématiser la relation entre mes deux personnages, où on a un jeune qui veut réapprendre à marcher et éventuellement retrouver sa famille d'un côté, et de l'autre, où on a un vieillard qui veut retrouver sa femme qui est en ville et qui est certainement morte, ou du moins on doute. Et donc, dans cette lucide folie-là, il se passe quelque chose chez le vieil homme qui me fascine et qui est de l'ordre de la folie adolescente. Et donc, c'est ce renversement-là que des propositions, si on peut dire un peu plus convenues, de la jeunesse d'un côté, de la vieillesse de l'autre, que me permettait le mythe et donc sa réécriture en ce sens.
Oui, Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Christian Guépolicain, avec qui nous parlons de ce deuxième roman, Le poids de la neige. Alors nous avons un peu planté le décor en première partie, une maison dans la montagne, plus d'électricité, deux hommes, quelques personnages qui viennent leur rendre visite et les aider avec de la nourriture, mais néanmoins c'est ce huis clos oppressant qui nous intéresse. Si c'est difficile de dire comment la situation va évoluer, parce que la tension est si forte qu'il faut laisser au lecteur ce plaisir de tourner fiévreusement les pages pour savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. En revanche, on peut parler de votre écriture, Christian Guépolicain, qui a plusieurs caractéristiques. D'abord, au jour le jour, vous décrivez le quotidien de ces deux hommes. Manger, dormir, surveiller le feu, jouer aux échecs, surmonter la douleur pour l'un qui en effet a les deux jambes brisées et il est totalement immobilisé et on sent à quel point sa souffrance est grande. L'impatience pour l'autre, pour Mathias, on l'évoquait à l'instant, et puis il faut chercher de la nourriture, il faut chercher absolument un moyen de locomotion pour partir, un minibus, une voiture, une motoneige. Donc tout chez vous est dans le geste, dans l'acte, très peu dans la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être pas de place pour la psychologie quand on est en mode survie?
Je dirais d'abord que je prends plaisir à écrire des histoires où il ne se passe rien, spécialement parce que tout peut alors arriver à chaque instant. Dans la tension par rapport au réel et par rapport au récit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où on a l'impression que rien n'avance, mais alors que des plaques tectoniques sont en mouvement dans le récit. Et donc, il y a quelque chose de très important à ce niveau-là.
Donc, il y a un défi pour vous.
Bien sûr, qui s'impose à tout moment et à chaque page qu'on écrit, à chaque ligne même. Après ça, le rapport au réel que vous décrivez et aux tâches quotidiennes est une façon pour moi d'abord d'ancrer un récit qui va du point A au point B, au sens un récit au sens classique du terme, dans une réalité tangible, dans les particularités des exigences liées aux détails du quotidien, quand, par exemple, on va chercher de l'eau dans la rivière à la fin de l'automne et qu'il faut casser la glace et qu'on doit y plonger les mains, eh bien, ce froid-là mordant comme des centaines de petites lames de rasoir qui s'infiltrent sous la peau, il y a quelque chose qui se passe là qui est absolument réel, hein, que tout le monde peut expérimenter, mais qui est à mon sens très littéraire. Pourquoi? Parce que ce qui peut apparaître à la fois très banal porte, à mon sens, une dimension poétique très grande. Et c'est là que s'affirme la poésie dans le narratif. C'est ce que j'aime lire chez certains auteurs, c'est ce que j'essaie de faire, tant bien que mal, par moment. Mais c'est donc par le détail de rentrer dans un rapport au monde qui se passe clairement dans la dimension poétique des choses.
Revenons au roman Le poids de la neige, parce qu'il y a deux questions stylistiques qui m'ont beaucoup intéressée tout au long de ma lecture. D'abord, les chapitres sont courts, sont tranchants, mais sont numérotés avec une logique qui n'appartient qu'à vous, visiblement, puisqu'on commence à 38, on monte jusqu'à 273, mais avec très souvent des sauts numériques, et on redescend à 7 pour le dernier chapitre, sans savoir si ça correspond à l'écoulement des jours. Je me suis demandé si c'était la température extérieure, mais toujours pas. Donc, Christian Guépolicain, à quoi correspond cette numérotation? Est-ce que c'est un jeu?
Tout est un jeu en littérature. Effectivement, il y a quelque chose que je peux me permettre de dévoiler à votre micro, puisque il est vrai que les indices sont infimes dans le roman pour indiquer, mais je nous inviterai à revisiter le chapitre 41 où Mathias s'avance dans la clairière. On est au début de l'hiver encore, mais on sent déjà que l'automne a été long et que l'hiver s'annonce encore plus long, bien évidemment. Alors Mathias s'avance dans le milieu de la clairière, plante un long bâton en plein centre de la carrière qu'il a gradué et rentre à l'intérieur et offre une longue vue à son jeune collègue qui est en rémission.
Donc, c'est la montée de la neige?
Exactement. Ah. Et ce qu'il y a de bien, en tout cas à mon sens, de numéroter les chapitres avec les centimètres de neige, c'est qu'on crée une ambiguïté et qu'on essaie simplement de jouer avec le temps. Hein. Donc, c'est tout le temps de laisser certaines zones flou en termes de l'écoulement du temps. Parce que si on est au chapitre 41, le chapitre suivant, le 43, cela peut se situer quelques heures plus tard, ou s'il n'a pas neigé depuis quelques jours, ben quelques jours plus tard. Donc, alors c'est donc de créer des zones de flou à l'intérieur du récit pour que le rapport au temps ne soit pas rationalisé comme on a l'habitude de le faire avec le calendrier, le téléphone,
le réveil,
et l'horloge. Exactement. Donc
c'est notre approche du temps.
Exactement. Donc c'est de briser un peu cette façon-là linéaire d'aborder notre propre vie, notre propre temps sur Terre.
Et pour finir, la place de la littérature dans votre univers et dans ce livre en particulier, puisque Mathias, on le voit, a trouvé des livres dans cette maison qu'ils ont investi. Au début, ils sont dans la véranda et puis la véranda va ployer sous le poids de la neige, va s'effondrer sous le poids de la neige et donc ils vont retourner dans la maison principale. Donc il y a des livres. Alors, il les lit, parfois il raconte certaines histoires d'ailleurs qui lui semblent importantes aux protagonistes, d'autant plus qu'au début il se mure dans un silence, mais finalement le dialogue va se mettre en place entre les deux. Mais pourtant, quand ils n'auront plus de bois, ils vont brûler les livres. Sous-entendu que la survie est plus importante que tout, plus importante que la culture?
C'est la question qui est posée. Je dirais, pour commencer, l'importance pour moi de mettre en abîme la littérature, c'est un clin d'œil bien sûr à la littérature moderne. La littérature moderne a conscience d'elle-même, on pense à Don Quichotte par exemple, de Cervantes, où la littérature se met en scène elle-même, donc à l'intérieur. Donc cette mise en abîme-là permet donc de créer une dimension supplémentaire à l'œuvre. Et bien sûr, après ça, tous les personnages écrivains qui ont peuplé la littérature des derniers siècles sont certes fascinants, mais un peu facile comme outil pour mettre en abîme la littérature. Et donc, j'ai cherché un moyen de parler de la littérature subtilement sans mettre l'emphase sur ce qu'elle est. Et ce clivage-là, avoir un personnage qui est lecteur et mon autre personnage qui est à la base mécanicien, qui n'est pas lecteur du tout, me permettait d'aborder de façon subtile l'importance pour moi de la littérature. Et je dois préciser, si à un moment donné, on a un épisode d'auto-da-fé, ce ne sont pas les deux personnages qui brûlent les livres à ce moment-là, ce n'est bien qu'un seul, et c'est le mécanicien qui, suite à une situation d'urgence où il est tombé dans un lac et est en train de souffrir d'hypothermie, brûle ce qu'il a sous la main pour se réchauffer immédiatement, et ce sont les livres de Mathias, alors que Mathias n'est pas là. Et donc, cet épisode-là est un peu charnière et me permettait de voir la littérature sous ces deux aspects, c'est-à-dire du côté de Mathias, une histoire et un récit profond qui nous enseigne sur l'existence, et du point de vue du personnage principal, un tas de papiers qui peut servir de façon très utilitaire à plein de choses aussi. Et donc, la littérature est essentiellement ces deux choses, c'est du papier et une histoire. Et donc, c'est dans ce rapport-là, à la fois très concret et très existentiel, donc des grands récits qui ont traversé l'existence par le papier. Donc, c'est une façon de réactiver parfois certains textes et de les mettre à mal en les jetant dans le foyer pour se réchauffer aussi.
Et vous feriez quoi dans une telle situation? Vous êtes enfermé dans une maison cernée par la neige, vous avez froid, il ne reste que des livres à brûler.
Bien, il ne reste jamais que des livres à brûler, en fait. Sinon, on commence par les mauvais. Sinon, on commence par les mauvais.
Vous le feriez. Pour survivre, vous le feriez.
En survie, certainement que je le ferais. La vie, pour lire d'autres histoires, pour écrire d'autres histoires, faut être vivant. Hein? On a attention, l'attachement à l'existence est la première chose qui compte. Et cela dit, si on brûle un livre, peut-être que l'histoire qu'elle contient va nous habiter, nous hanter davantage. Donc la littérature ne meurt pas. Son support nous servirait dans ce cas-là à poursuivre notre propre existence. Donc soyons clairs. Le récit permet une relation qui nous garde en vie. Donc le récit permet ce rapport-là fondamental à l'autre et nous ouvre en ce sens aux vies qui dépassent notre petite vie individuelle.
On va se quitter sur cette belle déclaration. Merci beaucoup, Christian Guay-Poliquin. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Le poids de la neige, qui a paru en France aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup.